Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire aujourd'hui, l'écrivain et académicien français Jean-Christophe Ruffin. Médecin de formation, prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil, il a aussi été ambassadeur au Sénégal. Une expérience qui lui a inspiré un nouveau personnage, lui aussi diplomate et qui se pique d'être détective à l'occasion. Héros amené à être récurrent puisque l'auteur lui a déjà consacré deux enquêtes, une en Guinée et une au Mozambique, dans ce volume dont nous allons parler avec lui, tout juste paru chez Flammarion sous le titre « Les trois femmes du consul ». Mais avant de retrouver notre invité, plein feu sur les trophées de l'édition organisé par notre partenaire, le magazine Livre Hebdo. Cet événement a rassemblé l'ensemble de la profession cette semaine pour une grande cérémonie où dans une douzaine de catégories ont été décernées des récompenses. Donc tout de suite, direction le théâtre de l'Odéon à Paris, où se trouvait sur place Inès Edel Garcia, reportage.
Ce ne sont pas les Césars ce soir, ce sont les trophées de l'édition, mais les trophées de l'édition, c'est en quelque sorte les Césars de l'édition. Nous avons voulu mettre en valeur les éditeurs, mettre en valeur les métiers de l'ombre de l'édition à travers leurs actions, à travers leurs initiatives les plus innovantes. Et donc, je suis ravi de co-animer cette soirée avec toi.
Merci beaucoup, Fabrice.
Fabrice Piau, rédacteur en chef de Livre Hebdo. Je pense que l'édition est finalement relativement méconnue du public. On ne sait pas, par exemple, que l'édition est la première des industries culturelles, loin devant le cinéma dont on parle bien plus dans les médias. Ça s'explique par le fait que le livre, en fait, se subdivise en des dizaines de milliers de livres. Il y a plus de 65 000 nouveautés par an, quand il y a simplement 300 à 400 films qui sont lancés chaque année. Donc, évidemment, la visibilité de chacun des livres est moins évidente à organiser. On a essayé de faire un petit peu le tour des différents métiers de l'édition, dont certains sont plus connus, l'aspect proprement éditorial est tout de même un peu connu, d'autres le sont beaucoup moins, comme la logistique par exemple.
Parmi les 13 prix remis, deux ont été décernés par des lecteurs de Livre Hebdo, c'est-à-dire des professionnels du livre, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires. Et parmi eux, le trophée de la petite maison d'édition, dont Frédéric Martin est le lauréat. Il y a 6 ans seulement, il a fondé le Tripode.
Moi, je suis un enfant du livre, vraiment. Il n'y avait pas de livre dans ma famille et j'ai découvert, grâce à l'école républicaine, la littérature. Et dans ma manière de travailler, il y a beaucoup de ça. Du côté autodidacte, découvreur, la maison d'édition publie essentiellement de la littérature, mais elle peut aller sur des livres les plus exigeants ou livres les plus populaires avec le même plaisir, parce que je crois que quand on est lecteur, on peut lire avec autant de force et d'intensité un polar que Joyce ou Proust. Voilà, donc on publie une vingtaine de livres par an. Avec un créneau, on met souvent en dessous de notre logo le slogan « Littérature, art et ovni ». C'est-à-dire qu'on essaie toujours de publier des livres qui ressemblent à aucun autre, et avec beaucoup d'art. C'est-à-dire qu'on crée des maquettes spécifiques, on fait intervenir très souvent un artiste sur l'illustration de couverture. Une des particularités du catalogue de la maison d'édition tient aussi à mon pédigré, parce qu'en fait, je suis français sans l'être tout à fait. J'ai vécu à Tahiti, au Maroc, aux Pays-Bas. J'ai une mère italienne et un père presque belge. Et on retrouve ça dans le catalogue. Il y a très peu d'auteurs qui vivent à Paris, par exemple, dans les auteurs francophones. Il y a des auteurs emblématiques comme Ali Zamir, qui vient des Comores. Mais même de manière plus générale, il y a un regard vers l'ailleurs et une espèce de décentrage par rapport à ce qu'on associe en général à la littérature française, qui est pour moi hyper agréable.
Pourquoi le Tripode ?
Bah, 3 pieds, c'est un symbole de stabilité, en fait. Ça tombe toujours, il n'y a jamais de déséquilibre. Et une maison d'édition, sa première vocation, c'est une maison, c'est que ça doit toujours bien tenir pour que les auteurs s'y sentent bien, pour que la vie va.
Au Théâtre de l'Odéon, ce soir, il n'y a pas que des éditeurs à proprement parler qui sont récompensés, puisque le trophée du succès international a été remis à Cairninfo, une plateforme en ligne de sciences humaines et sociales. Thomas Parizeau nous explique pourquoi.
Donc absolument, on n'est pas un éditeur, hein, donc on est une plateforme mutualisée entre différentes maisons d'édition qui l'ont fondée et qui, au-delà des fondateurs d'ailleurs, s'ouvre à beaucoup de structures éditoriales, publiques, privées, associatives, grandes, petites. Après, effectivement, on rejoint totalement l'objectif des éditeurs qui sont ici de donner un maximum de visibilité, de toucher un lectorat à travers le monde en utilisant effectivement, de façon mutualisée, des outils qui sont le numérique et la traduction. Donc avec effectivement une démarche un peu paradoxale peut-être, mais qui est de traduire aussi en anglais un certain nombre d'articles, de textes, pour leur donner une visibilité au-delà même du bassin francophone, et par là même faire rayonner les idées, l'expression de tout un travail qui est celui des auteurs francophones.
Comment vous gérez justement cet équilibre entre le papier et le numérique pour pas faire de la concurrence un peu déloyale justement aux publications papier ?
À la maison d'édition, son métier n'est pas forcément de fabriquer du papier, hein, c'est de créer des œuvres avant tout. Évidemment, il y a un marché du papier qui n'est pas le nôtre. Notre idée à nous, c'est de doubler cette diffusion avec une diffusion numérique et de toucher ce lectorat lointain en contournant certaines barrières, certaines difficultés qui sont celles du marché papier. Les librairies physiques, on parlait de l'Afrique par exemple, sont structurellement assez peu présentes sur le territoire, alors que le numérique est un outil formidable. Ça nous permet aujourd'hui, d'une certaine façon, d'aller très vite, très loin, et toucher ce lectorat très lointain, de répondre à des demandes de curiosité qu'on n'aurait même pas imaginées, et donc on n'aurait pas touché avec le format papier.
Moi, je suis à côté, donc si tu veux, je me suis...
Bonjour Alain Mabankou.
Bonjour.
Alors, donc, vous avez été membre du jury de cette première édition des trophées de l'édition. On peut se dire encore des trophées, encore des prix, encore... Qu'est-ce que ça a de plus, finalement?
Alors, en général, les prix littéraires sont orientés vers les écrivains, vers les traducteurs, vers les interprètes, vers les intermédiaires peut-être du livre. Mais les éditeurs sont considérés toujours comme des bourgeois, comme des petits capitalistes qui n'ont pas besoin de cela. Mais non, il faut déjà aussi qu'on commence à se dire que le métier d'éditeur doit être aussi célébré. Moi qui suis auteur, ça me donne cette fois-ci le pouvoir de juger l'éditeur, alors que jusqu'alors c'est l'éditeur qui jugeait mes textes.
C'est votre revanche.
C'est ma petite revanche, mais c'est bien aussi parce que ça contribue à donner une certaine humanité à l'édition. Et à la fin, je pense que c'est l'édition qui a triomphé, et donc la littérature.
Littérature sans frontières.
Il aurait été difficile de deviner son âge. Malgré son crâne dégarni, entouré d'une couronne de cheveux frisés poivre et sel, il avait des expressions presque juvéniles. Mais ses vêtements lui donnaient une silhouette de vieillard. Sa tenue de bureau habituelle se composait d'un costume rayé à trois boutons, d'une chemise à col pointu à laquelle d'innombrables lavages donnaient des reflets jaunes, et d'une cravate à rayures rouges et vertes. Quand il sortait, il enfilait toujours un long manteau de tweed croisé à large revers qu'il tenait soigneusement boutonné. Pour protester contre le sort injuste qu'il avait exilé dans cette capitale africaine, il mettait un point d'honneur à ne rien changer à ses habitudes vestimentaires. Il était habillé comme il l'aurait été en plein hiver dans sa Roumanie natale ou, à la rigueur, en France, sa patrie d'adoption, et plus précisément à Paris. Par bonheur, il ne transpirait jamais.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Catherine.
Voilà donc le portrait d'Aurel Timescu, le nouveau personnage que vous avez créé et qui, comme on vient de l'entendre dans cette lecture, ne manque pas de singularité. D'origine roumaine, exilé en France, entré dans la diplomatie tardivement, cet homme qui aime plus que tout au monde son piano et un bon vin blanc est aussi un détective dans l'âme. Et c'est ainsi qu'après le suspendu de Conakry, le voici à nouveau enquêteur sur le continent africain dans Les trois femmes du consul, ces deux premiers volumes étant publiés chez Flammarion. Comment est née l'idée, l'envie peut-être de vous lancer dans cette série romanesque policière ?
Quand je suis rentré du Sénégal, où j'avais été ambassadeur pendant 3 ans, je suis revenu avec tout un stock d'anecdotes, d'impressions, de portraits, d'histoires en réalité. Alors c'est difficile pour un ancien diplomate de raconter des choses directement inspirées de la vérité. Et alors je me suis dit que le mieux c'était de créer peut-être un double, si vous voulez, qui me ressemble, mais pas tout à fait, parce que je suis moins habillé et que je balade comme ça un peu dans des situations différentes, mais qui à chaque fois me permet d'évoquer des réalités et des choses que j'ai connues. Quoi.
Voilà. Alors c'est quand même un curieux homme. Hein. Et est-ce que vous avez croisé ce genre de profil quand vous étiez diplomate justement?
Oui, tout à fait. Il est un peu inspiré de rencontres professionnelles, si je puis dire. Les diplomates travaillent beaucoup, chacun le sait. Mais enfin, il y en a quand même qui ne font rien. Et lui, c'est le prototype du planqué, du type qui ne veut rien faire, mais pas parce qu'il est pas bon, au contraire, parce qu'il a des talents cachés, qu'il n'a pas envie tellement de mettre au service de dossiers qui ne l'intéressent pas. Il garde son talent, ses talents pour d'autres choses, pour la musique en particulier, pour le jeu d'échecs. Et puis de temps en temps, en effet, si l'occasion lui en est donnée, c'est un enquêteur absolument. Alors on lui demande rien pourtant, hein, mais lui, tout seul, alors là, il se met sur une piste et là, il devient génial.
Avant de parler de ces enquêtes, peut-être faut-il rappeler aussi quel est le rôle d'un consul ?
Alors, justement, moi, dans mon expérience diplomatique, si vous voulez, qui n'est pas, c'est pas mon métier d'origine, moi, je suis médecin, et justement, j'ai toujours trouvé que la dimension consulaire était la plus intéressante, la partie la plus intéressante, finalement, du travail diplomatique. Le consul, en fait, il s'occupe de tout ce qui est humain, je dirais, c'est-à-dire du sort des compatriotes, vous voyez, par exemple, je sais pas, les Français qui perdent leurs papiers, qui ont besoin de secours, qui ont besoin d'aide sociale aussi, parfois, pour les expatriés. Tous les problèmes d'état civil, tous les problèmes de regroupement familial, de visa. Voilà, c'est ça le travail du consul. Et dans mon expérience diplomatique, finalement, les problèmes consulaires, c'est-à-dire sont des problèmes humains généralement très, très intéressants et parfois très douloureux d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui, à l'étranger, se retrouvent dans des situations tout à fait difficiles.
Donc Aurel Timescu est envoyé sur le continent africain où il ne s'habitue définitivement ni au bruit, ni à la chaleur, ni à la poussière. Et voilà donc qu'après la Guinée où se déroulait sa première aventure, le voici nommé au Mozambique, dans la capitale exactement Maputo, ville très chère à l'écrivain suédois Henning Mankell, entre parenthèses. Mozambique, ancienne colonie portugaise, mais qui pourtant, rappelez-vous, Jean-Christophe Ruffin, fait partie de la francophonie, c'est vrai ?
Oui, enfin, ça dépend des périodes. Il y a eu des périodes où on a, vous savez, le champ francophone est plus ou moins large selon la conception qu'ont les présidents, qu'avaient les présidents français au fond de ce qu'était leur précaré a varié. Hein. Il y en a qui étaient dans des conceptions un peu restrictives et puis d'autres au contraire, c'était le cas notamment à l'époque de Mitterrand, ils ont un peu élargi et ces colonies fraîchement décolonisé justement, parce que les Portugais ont décolonisé très tard, en 75, effectivement se sont rapprochés à ce moment-là de la France. Voilà, non, tout ça c'est pour surtout dire que ce ne sont pas des pays qui nous sont tellement étrangers, il y a des liens forts avec ces pays, même s'ils sont lusophones.
Et pourquoi avez-vous choisi donc ici le Mozambique ? Parce que c'est un pays que vous connaissez, que vous aimez ?
Oui, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays, d'abord moi je suis lusophone moi-même, j'ai vécu au Brésil, bon, j'aime beaucoup le monde lusophone en général. Alors, Maputo, qui s'appelait à l'époque coloniale, Lorenzo Marques était une belle ville. Et puis les villes du Mozambique, d'une façon générale, Beira, etc., sont très belles. Et c'est un pays très, très attachant. Alors, moi, je brouille les cartes aussi un peu. C'est-à-dire que cette histoire ne s'est pas forcément déroulée au Mozambique, si vous voulez. Mais bon, j'ai préféré la situer là parce que je trouvais que c'était un décor qui était approprié pour la mettre en scène.
Alors précisément, après avoir posé le décor de ce nouveau roman, entrons dans ces trois femmes du consul avec vous, Jean-Christophe Ruffin, qui s'ouvre sur la mort suspecte d'un Français expatrié, retrouvé mort, pieds et mains attachés, dans la piscine de son hôtel, visiblement noyé. Et très vite, c'est son ancienne femme qui est accusée de meurtre, sauf que Aurel a l'intime conviction qu'elle est innocente et il fait une enquête. Enfin, on est bien d'accord, hein, Jean-Christophe Ruffin, il n'est pas habilité à enquêter avec quand on est consul. C'est la liberté romanesque.
Oui, enfin, vous savez, un consul est amené à connaître beaucoup de choses parce qu'il a accès aux questions d'état civil, il peut interroger les notaires, la famille, etc. En fait, les consuls vont assez loin souvent dans la connaissance des cas et quand il y a des drames, en particulier des meurtres, des enlèvements, ou des vols, etc. C'est souvent auprès du consul qu'on trouve de l'aide et donc ils sont amenés non pas à faire une véritable enquête. Là, ça c'est la liberté, non pas de l'écrivain, mais d'Aurel, parce que lui, ce qu'il supporte pas, c'est l'injustice. Voilà, ça c'est ça le révolte. Et alors, quand il a l'impression qu'une enquête est bâclée, ce qui était un peu le cas là, dans cette affaire, on a accusé cette femme, cette Française, c'était commode parce que finalement elle est étrangère, elle arrive là. Bon, il paraît évident que ça doit être elle. Mais lui, il est convaincu que c'est plus compliqué que ça. Et donc il prend le mordant, ça intéresse. Il fait une enquête et il le fait avec des moyens consulaires, c'est-à-dire en tant que consul, il peut un peu aller partout, poser toutes les questions. Finalement, c'est pas un policier, mais il a quand même des pouvoirs assez larges.
Et en effet, comme vous le disiez, il ne supporte pas l'injustice. En un mot, c'est un idéaliste et il va se battre pour des valeurs auxquelles il croit et garder intacte son indignation, à commencer envers les jeunes filles ici au Mozambique, dont une religieuse dit que la condition des filles est très dure dans les campagnes. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là, Jean-Christophe Ruffin?
C'est pas propre au Mozambique, c'est vrai un peu partout, c'est-à-dire que la scolarisation des filles, si vous voulez, se heurte souvent. Dans beaucoup de pays d'Afrique, moi j'ai connu ça au Sénégal, il y a d'ailleurs des ONG qui s'occupent de ça de façon prioritaire, c'est-à-dire de mettre à l'abri les filles, si vous voulez, quand elles quittent leur village, qu'elles atteignent l'âge de la puberté, etc., puis qu'elles doivent faire des études un peu, je dirais pas des études supérieures, mais enfin poursuivre des études, ils sont plus études primaires, ça devient des femmes, etc., et très souvent, elles sont mariées, plus ou moins de force, etc., donc c'est très important d'arriver à les mettre à l'abri, vous voyez, parce que dans les campagnes, la situation n'est pas favorable tellement, c'est dur, la condition en général est dure, et celle des filles particulièrement.
Autre sujet très sensible auquel Aurel va être confronté, c'est le trafic des défenses d'ivoire des éléphants. Donc la situation est toujours inquiétante, Jean-Christophe Ruffin.
Oui, alors c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai situé l'affaire au Mozambique, parce que c'est un pays qui est particulièrement exposé à ça, avec le parc Kruger, avec tous ces enjeux autour de la protection des animaux, qui est particulièrement, j'allais dire, crucial. Et alors, à la fois, ils font des efforts pour contrôler le trafic, les braconniers, etc., et en même temps, par derrière, c'est ce que Aurel va découvrir, et ça sera d'ailleurs une des clés de l'affaire, c'est-à-dire qu'on protège, on fait semblant de suivre les règlements internationaux, de protéger les animaux, etc. Puis finalement, derrière, y a les défenses qui sont confisquées, on peut parfois les retrouver sur le marché.
Oui, en fait, plus que le trafic, ce qui est inquiétant, c'est que c'est un commerce illégal qui est couvert, ou en tout cas sur lequel les gouvernements en place ferment les yeux.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe entre, si vous voulez, les résultats qui sont affichés par les organisations internationales, par l'ONU, etc., qui vous expliquent qu'il y a eu en effet tant d'interceptions, de braconnage, etc., Et puis, ce qu'on observe sur le terrain, c'est-à-dire la permanente diminution des animaux et la persistance de la chasse, si vous voulez. Donc, il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Oui. Et donc, ces polars, enfin, si vous voulez, ils ont un but, enfin, autour d'Aurel, c'est d'être, j'espère, drôle et plaisant à lire, mais ils sont pas gratuits, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même derrière d'éclairer à chaque fois, je l'avais fait pour le premier, un événement, un contexte international. C'est-à-dire que finalement, Aurel, avec son air idiot et son accoutrement bizarre, là, eh ben, il nous entraîne vers des choses qui le dépassent de très loin et qui c'est le monde d'aujourd'hui, en fait, hein, qui nous est présenté.
Sauf que il va mettre une sacrée pagaille aussi, Aurel, dans les relations diplomatiques entre la France et le Mozambique. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Jean-Christophe Ruffin?
Avec un collaborateur comme ça? Oui, c'est... Non, mais si vous voulez, c'est un révélateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui met les pieds dans le plat, qui est incontrôlable. On ne peut pas le ficher à la porte parce qu'il est titulaire. En France, le titulaire, c'est sacré. Donc, on ne peut pas le mettre à la porte. Alors, on le met toujours dans des postes un petit peu dont personne ne veut, etc. Mais il est incontrôlable. Il est incontrôlable. Et quand il se lance dans une enquête, ben, faut s'attendre à tout. Parce que le jour où, en effet, il a formé sa conviction, il est convaincu d'avoir trouvé le coupable, c'est en général ce qu'il arrive à faire, eh bien, il ne se contente pas de le savoir. Il agit. C'est-à-dire que... Parce qu'encore une fois, son but, c'est la justice. Donc, à un moment donné, eh ben, il fait bouger les lignes. Il fait bouger les lignes. Et là, on voit apparaître un personnage déchaîné, tout simplement, qui n'a peur de rien, quoi. Qui n'a peur de rien.
Effectivement, dans cette littérature plus ludique qu'un pamphlet, vous abordez des sujets graves. Donc, ici, le trafic d'ivoire et précédemment le trafic de drogue. Dans certaines régions du monde. Alors évidemment, c'est un genre dans lequel vous vous amusez beaucoup, visiblement, Jean-Christophe Ruffin, mais au service duquel aussi votre écriture doit s'adapter, j'imagine, parce que vous n'écrivez pas ces enquêtes d'Aurel de la même façon que vous écrivez vos autres romans.
Non, mais je pense qu'il y a quand même un savoir-faire, je dirais, de romancier qui me sert, parce que moi j'ai toujours consacré beaucoup d'attention à la structure des livres, à la conduite du récit, etc. Donc je crois qu'il faut essayer de prendre le lecteur, de le tenir, de le faire aller là où on veut l'emmener, mais avec plaisir, parce que moi ce critère du plaisir, de l'humour, etc., pour moi est très important. Donc ça, tout ça, évidemment, c'est un acquis que j'ai amassé au fil du temps avec d'autres livres, mais évidemment au niveau du style, comme vous le dites, on est obligé, dans des livres comme ça qui sont très contemporains, qui sont basés sur une enquête, etc., on ne peut pas faire de l'imparfait du subjonctif et écrire comme au XVIIIe siècle, hein. On est obligé d'avoir une écriture plus efficace, plus dépouillée, plus simple. Voilà, moi c'est... Mais ça, de toute façon, moi, j'ai toujours admiré, et j'essaie de m'en approcher, même si j'y arrive pas forcément, mais les écrivains qui étaient capables, justement, d'adapter leur style à l'histoire qu'ils racontent. Par exemple, j'ai une grande admiration pour Giono. Eh ben, Giono, si vous lisez Colline ou si vous lisez Le Hussard sur le Toit, c'est pas du tout le même style, parce que l'histoire est différente, et au service de cette histoire, il y a un style différent.
Giono, dont on va célébrer en 2020, d'ailleurs, le cinquantenaire de la disparition, et qui est actuellement à l'honneur, hein, dans une grande exposition au MUCEM. Vous disiez, Jean-Christophe Ruffin, que vous aviez de l'admiration pour ces écrivains qui changent de style, en effet, mais est-ce que par ailleurs, vous êtes aussi amateur de littérature policière, comme Aurel semble l'être ?
Un peu, mais si vous voulez, les codes du polar sont nombreux. Enfin, il y a différents types de polars, si vous voulez. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas tellement attiré par le roman noir, par tout ce qui est l'hémoglobine, etc. J'ai eu ça dans mon premier métier, parce que je suis médecin à l'origine. Donc, je ne cherche pas l'hémoglobine là-dedans. Non. Mais par contre, le polar, j'allais dire traditionnel, c'est-à-dire le polar, disons, plus dans la lignée de Simenon et du polar d'enquête, vraiment du vrai polar et non pas du thriller ni du roman noir. Ça, oui, j'aime beaucoup, et bien sûr, il y a là des modèles extraordinaires, notamment dans notre littérature française ou belge, puisque...
Simenon était belge. Ouais. Et à l'Académie française où vous siégez, Jean-Christophe Ruffin, comment est perçu ce genre du roman noir, pour autant que vous ayez l'occasion d'en parler avec vos illustres confrères?
Ah ben j'en parle. J'ai observé une chose, c'est que, si vous voulez, je leur envoie évidemment toujours mes livres. Et ben ceux-là, ils le lisent. Les autres, j'en sais rien, mais disons qu'ils se précipitent pas forcément pour me le dire. Non, je crois qu'ils les lisent, mais si vous voulez, ils sont comme tout le monde et ils aiment bien se laisser prendre par une lecture qui va leur apprendre quelque chose, qui va les dépayser. Et je sais, j'ai beaucoup plus de réactions. Mais de réaction sympathique, de réaction à ces livres-là qu'à tous les autres, parce que ils ont plaisir à les lire, tout simplement.
D'autant plus qu'ici se passe pour l'instant sur le continent africain, qui est riche d'une langue française qui régénère énormément la langue que nous parlons ici en Hexagone.
Absolument, oui, tout à fait. Et justement, alors moi, je fais très attention à ne pas faire d'appropriation culturelle, comme on dit aujourd'hui, et je ne prends jamais des héros africains. Je parle toujours du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire du français, si vous voulez, voilà, mais dans des décors et dans des contextes et dans des situations qui sont des situations africaines que je pense connaître un peu et puis qui surtout m'ont toujours passionné, voilà. Donc, mais enfin, ça ne veut pas dire non plus qu'Aurel sera toujours en Afrique, puisque le prochain se passe sur les bords de la Caspienne, en Azerbaïdjan, à Bakou, et voilà, et on va le retrouver dans un tout autre contexte qui sera un peu à front renversé, puisque d'habitude il est dans des endroits qui ne lui plaisent pas et dont il voudrait partir. Et là, au contraire, par erreur, on l'envoie dans une ville dont il découvre les avantages, les charmes, puisque Bakou est une ville très belle, très agréable. Et il va tout faire pour rester, au contraire. Voilà.
Donc Aurel va faire le tour du monde en littérature.
J'en sais rien, mais ça faisait des années que j'avais envie comme ça d'avoir un double, si vous voulez.
Et pourtant, encore une fois, ne vous ressemble pas du tout, ni physiquement, ni dans votre façon d'être, en tout cas. Plus profondément, alors.
Oui, je pense que physiquement, en effet, je pense qu'on a quand même beaucoup de différences, mais par exemple, cette passion pour la justice, cette sympathie aussi pour les gens simples, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui va flatter les puissants et qui va plutôt s'entendre bien avec les gens les plus simples, les plus qu'il rencontre, etc. Bon, tout ça, je sais pas si j'ai les mêmes capacités, mais en tout cas, j'aurais envie de ressembler à ça, vous voyez. Et donc, voyager avec Aurel, c'est sympathique parce que, en plus, je me dis, c'est une sorte de miroir, il va refléter ce que je vois. Vous voyez, quand je voyage beaucoup, je rencontre des tas de gens, dans des contextes, souvent d'ailleurs des contextes diplomatiques, je vais les voir, etc. Et voilà, c'est l'occasion de mettre tout ça en scène d'une façon qui, moi, m'amuse, et puis j'espère qu'il amuse les lecteurs. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça a l'air d'être le cas, puisque voilà, il y en a beaucoup, et qui me sont fidèles d'un livre à l'autre, donc j'espère qu'ils resteront pour le troisième.
Toute dernière question, dans la mesure où Aurel Timișcu est d'origine roumaine, est-ce que ces livres sont traduits en roumain?
Oui, tout à fait. Le premier est traduit, le deuxième va l'être. Je vais moi-même aller en Roumanie à l'occasion du Salon du Livre au mois de mai. Voilà. D'ailleurs, j'ai rencontré très récemment l'ambassadeur de Roumanie, qui est un lecteur tout à fait enthousiaste de ces livres. Les Roumains ont l'impression finalement d'être mis à l'honneur, alors que ce personnage, dans en premier aspect, peut apparaître... il n'a pas envie de travailler dans un bureau, ça c'est son droit, mais il est plein de qualités. Et les Roumains se reconnaissent dans cette espèce de joie de vivre aussi, de fraternité qu'il a, d'idéalisme, etc. Voilà, et il le trouve très roumain. Voilà. Et pour moi, c'est un compliment.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. Donc, en attendant de lire la troisième aventure d'Aurel Timișcu, à lire aujourd'hui Les Trois Femmes du Consul, le deuxième volume qui a paru comme le précédent, Le Suspendu de Conakry, aux éditions Flammarion.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.